Il est 8h. Et c'est le journal de Frédéric Métezeau. Bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, un président dans l'arène et des gilets jaunes dans la rue. Emmanuel Macron rencontre les maires du Lot cet après-midi à Souillac pour le grand débat national. À Saint-Briac, en Bretagne, une centaine de citoyens ont échangé hier soir. Les gilets jaunes, 10e journée de mobilisation demain. Certains manifestants voient le grand débat comme un piège. Et si c'était au contraire une chance, y a-t-il du positif dans cette crise? Nicolas, vous poserez la question à votre invité dans le grand entretien à
8h20. Oui, du positif et des perspectives. Le sociologue Bruno Latour, auteur de « Où atterrir ?» aux éditions La Découverte, est dans le studio de France Inter dans une vingtaine de minutes. Appelez-nous dès maintenant 01 45 24 7000.
Faut-il craindre une sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne sans accord? À la City à Londres, on s'y prépare, mais on a encore du mal à y croire. Reportage à suivre, les journées portes ouvertes des compagnons du devoir. Ce week-end, une centrale à charbon réquisitionnée pour fournir de l'électricité à la Bretagne et les équipes de la NBA en Europe, tournée triomphale des basketteurs américains.
France Inter.
Souillac, son abbatiale, son musée de l'automate, sa halle, ses viaducs et sa vieille prune. Emmanuel Macron a choisi Souillac, cette ville du Lot de 4000 habitants, pour participer à son deuxième grand débat de la semaine cet après-midi. Bonjour Yaël Gauz.
Bonjour Frédéric.
Le président de la République ne veut pas ralentir le rythme. Il veut personnellement participer au grand débat qu'il a lui-même lancé pour répondre aux gilets jaunes.
Oui, comme un air de campagne, il faut parcourir les boucles Telegram des députés de la majorité pour mesurer le changement d'ambiance. On se serait cru revenu au tout début d'En Marche, dit un proche, aux origines, quand Emmanuel Macron n'avait rien à perdre. Épisode 2, donc, dans le Lot, une géographie de campagne, après le périurbain normand, le rural occitan, et cette tournée va se poursuivre jusqu'en mars. Tant qu'il y aura des questions, il répondra, dit l'Élysée, mais attention, les maires en écharpe tricolore, c'est bien, se frotter aux Français, c'est mieux, estime un conseiller.
Alors Yael, ce ne sont que des sondages, mais plusieurs études d'opinion nous montrent que ce grand débat a permis à Emmanuel Macron de redresser la barre.
Oui, enquête au Doxa ce matin pour France Info, un tiers des sondés veulent participer à ce grand débat, potentiellement 13 millions de Français qui veulent donc s'impliquer, proposer, ça change le climat. L'image du président ensuite s'améliore doucement, elle est raide la pente à remonter. Plusieurs enquêtes publiées ces derniers jours situent sa cote de popularité entre 23 et 28%, toutes à la hausse et proches de son socle du premier tour de la présidentielle, avec des effets sur les intentions de vote aux européennes. Dans le dernier sondage IFOP sorti mercredi, inversion des courbes, l'alliance LAREM-MODEM repasse devant le RN de Marine Le Pen. Le tournant après les ronds-points, on n'en est pas là, Frédéric. Encore beaucoup d'inconnus dans l'équation. Que retiendra-t-il des propositions dans le débat? Quel sera leur débouché? Énième Grenelle ou référendum? Option étudiée en ce moment, place Beauvau. Et d'ici là, comment ne pas lasser dans les gymnases? Comment reparler aux Français sans cordon de CRS? Parce que c'est aussi ça, Souillac, ce matin, un village sous cloche.
Merci Yaël Gauz, chef du service politique de France Inter.
Et on connaît désormais les 5 garants du grand débat national.
4 garants et 3 garants et 2 garantes, j'y arrive, désignés par Matignon et les présidents de l'Assemblée, du Sénat et du Conseil économique et social. Nadia Bellaoui, secrétaire générale de la Ligue de l'Enseignement. Le politologue Pascal Perrineau, l'ancien juge et membre du Conseil constitutionnel Guy Canivet, l'ancien patron de la Poste Jean-Paul Bailly et l'actuelle présidente de la CNIL, Isabelle Falque-Pierrotin. Le mode d'emploi de ce grand débat est à retrouver sur franceinter.fr. Emmanuel Macron n'est pas le seul à y participer. Et c'est là le plus important. Les citoyens, les anonymes se réunissent et prennent la parole. C'est la réalité concrète des chiffres qu'on vient d'évoquer avec Yaël Gauz. Exemple à Saint-Briac-sur-Mer, en Ille-et-Vilaine, hier soir, ils étaient plus d'une centaine dans la salle du presbytère. Reportage de Mathilde Dehimy.
Les chaises disposées en face à face sont toutes occupées. La salle déborde. Les gilets jaunes sont là, sans signe distinctif. Le maire joue les monsieur loyal.
Quels impôts faut-il, à vos yeux, baisser en priorité? Donc allons-y, je vous passe la parole.
Toute première proposition.
Que le pourcentage des impôts augmente plus pour des personnes qui perçoivent des sommes sans absolument ne rien faire du tout.
L'ISF est immédiatement sur la table. Un peu de CSG, beaucoup de TVA et de fraude fiscale et un besoin récurrent d'exemplarité.
Comme une famille, en priorité, on doit faire l'analyse de ce qu'on doit dépenser tout le long de l'année. Quand on voit le train de vie député, sénateur, c'est un peu provocateur.
On s'interroge sur le libellé des questions.
Non mais c'est hallucinant quand même. Vous vous rendez compte la question qu'il pose ? Faut-il supprimer certains services publics ?
Je suis pas complètement d'accord avec vous. Vous dites que c'est de la naïveté et tout ça. Pas du tout, monsieur. Il veut nous interroger. C'est plutôt humble de sa part.
On parle aussi de l'avenir des jeunes absents de la salle, du budget de l'armée, attachement aussi aux services publics de proximité.
Merci à vous.
Saint-Briac continue son débat autour d'un verre.
Il y a un grand besoin d'une démarche pédagogique de nos gouvernants.
C'est très bien de se concerter pour canaliser les urgences.
Certaines revendications, comme le référendum d'initiative citoyenne, ne sont pas apparues, mais ça viendra, sourit le maire, dès le prochain débat dans une semaine. Saint-Briac, Mathilde Dehimi, France Inter.
C'est donc aujourd'hui l'acte 2 du grand débat pour Emmanuel Macron. Demain, c'est l'acte 10 des Gilets jaunes, des appels à manifester à Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, Rouen, Caen, Toulouse. Manifestation interdite à Angers où le centre-ville est déjà bouclé. Premier appel à manifester demain à Saint-Jean-de-Luz au Pays Basque. Débattre et manifester. Débattre ou manifester, c'est le dilemme des Gilets jaunes. Pour Kamel Amriou, Gilets jaunes mobilisés depuis le début, via le mouvement citoyen des Gilets jaunes, ce grand débat est un piège.
On va continuer à débattre dans la rue. Alors les débats de M. Macron qui sont avancés, bah, tant mieux, grand bien lui fasse. Mais je vous dis, il y a un petit sentiment de manigance autour de ces débats. On perçoit une manière de vouloir contrecarrer les Gilets jaunes. Mais contrecarrer les Gilets jaunes, c'est quoi ? C'est d'essayer de contrecarrer le peuple, finalement. Mais le peuple, ce n'est pas l'idiot utile de l'histoire. Nous, nous l'invitons à venir débattre avec nous. Nous ne sommes pas fermés au dialogue, mais ne nous prenez pas pour ces idiots utiles, je le répète, parce que c'est une manière méprisante pour la République, parce que nous sommes finalement les uns et les autres, tous des citoyens de ce pays. Et pour le bien de la France, il faut que nous arrivions à sortir de tout ça.
Le gilet jaune Kamel Amriou qui nous citait Lénine au micro de Thibault Lefèvre. Selon ce sondage Odoxa pour France Info dont nous parlions tout à l'heure, 82% des Français pensent que la fiscalité et les dépenses publiques sont les questions prioritaires à débattre. Mais pour parler fiscalité, il faut avoir quelques éléments de réflexion. Alors Bercy, le ministère des Finances, a publié un petit tableau pour avoir les idées claires, avoir quelques chiffres en tête et pourquoi pas Hélène Filly pour orienter un peu le débat.
Sur 1000 euros de dépenses publiques, 268 vont aux retraites, 191 à l'assurance maladie, 96 à l'éducation nationale. Rien que cela, c'est plus de la moitié. Le message du gouvernement, c'est que la dépense publique finance la protection sociale, les services publics, et c'est détaillé. Chômage, gestion de l'eau, fonctionnement du Parlement. Et puis, il y a la solidarité. Le niveau de vie de 20% des Français est augmenté de près de 75% grâce à la redistribution, lit-on encore. Ces chiffres aident à poser le débat, mais ils vont aussi dans le sens du message que veut porter le gouvernement. Lui qui martèle qu'il ne peut y avoir de baisse d'impôts sans baisse de la dépense publique, quoi sacrifier ? C'est une manière de montrer que ce n'est pas si facile, quitte à omettre d'autres axes de réflexion. Le président de la Cour des comptes appelait hier à une remise à plat des niches fiscales qu'il juge trop nombreuses, à accentuer la lutte contre la fraude. Quelle justice fiscale ? Le gouvernement ne rappelle pas que les deux tiers des prélèvements obligatoires sont supportés par les ménages, un tiers seulement par les entreprises.
France Inter, 8h08, Carlos rend l'argent.
Nissan pourrait demander à Carlos Ghosn de lui rembourser certaines indemnités. Selon l'agence économique Reuters, le constructeur japonais réclamerait plus de 7 millions d'euros à son ancien dirigeant. Carlos Ghosn aurait perçu indûment cette somme via une filiale Nissan Mitsubishi installée aux Pays-Bas. Le géant ferroviaire européen verra-t-il le jour ? Depuis un peu plus d'un an, Alstom et Siemens sont en pleine restructuration pour fusionner et créer un Airbus du train. Mais hier, des cadres des deux entreprises ont critiqué les exigences posées par la Commission européenne. Ces cadres laissent entendre que la fusion annoncée triomphalement pourrait ne pas avoir lieu. Toujours pas d'accord entre les conservateurs et les travaillistes britanniques pour un nouvel accord sur les conditions du Brexit. La gauche propose qu'une sortie de l'Union européenne sans accord soit impossible. Theresa May refuse car ce serait nier le référendum qui a voté pour la sortie. Une sortie sans accord, un no deal, les milieux d'affaires britanniques y pensent. Ils s'y préparent, mais ils veulent encore rester optimistes. Antoine Gignon est à la City à Londres.
Ce n'est pour l'instant qu'un petit nuage au-dessus des gratte-ciels de la City. Pas de grosse inquiétude dans les milieux financiers, explique Fabrice Montagnier. Pour le chef économiste de la Banque Barclays, les discours politiques servent avant tout à faire peur aux députés pour les inciter à trouver une position commune sur le Brexit.
Ça fait clairement partie de la stratégie, c'est-à-dire que pour forcer la main, notamment des parlementaires britanniques, il faut qu'on s'approche très très proche de la falaise et du précipice. Nous, on n'y croit pas trop. Probabilité à moins de 10%. Voilà. On ne sait pas grand-chose du Parlement britannique, mais on sait une chose, c'est que les seuls votes pour lesquels il y a eu une majorité ont été les votes contre une sortie désordonnée de l'Union européenne.
Plusieurs élus, conservateurs et travaillistes préparent d'ailleurs ensemble un texte qui interdirait toute sortie de l'Union européenne sans accord commercial. Mais les banques et les fonds d'investissement n'oublient pas pour autant de se préparer au pire. Depuis le référendum, il y a 2 ans et demi, plus de 900 milliards d'euros d'actifs ont été transférés vers le continent, avec des bureaux ouverts à Dublin, à Francfort, à Paris, en cas de Brexit dur et de scénario catastrophe, explique Catherine McGuinness, la responsable de la City of London. Près de 12 000 personnes pourraient traverser la Manche. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Et hier, la France a enclenché son plan d'urgence en cas de Brexit dur. Paris est prêt à débourser 50 millions d'euros pour embaucher des douaniers ou des contrôleurs vétérinaires s'il fallait remettre des barrières avec le Royaume-Uni. Édouard Philippe et Gérald Darmanin se rendent tout à l'heure à Calais pour suivre le dossier. Le rappeur MHD a passé la nuit en prison après sa mise en examen pour homicide volontaire. La justice le soupçonne d'avoir participé au passage à tabac puis au meurtre d'un jeune homme à Paris l'été dernier. Sa voiture avait été aperçue sur les lieux du drame. MHD dit qu'il n'était pas là et que plusieurs personnes avaient emprunté son véhicule. Il est l'un des plus gros vendeurs de musique en France. MHD, il est en tournée depuis septembre. Tournée, bien sûr, interrompue. Les Compagnons du Devoir organisent ce week-end leurs portes ouvertes. Ces pâtissiers, fromagers, maçons, maroquiniers qui excellent dans leur travail. Les Compagnons sont formés par leurs aînés et doivent s'acquitter du traditionnel Tour de France. Sauf qu'aujourd'hui, le Tour de France du Devoir ne se limite plus à la France. Les Compagnons doivent apprendre à l'étranger. Sonia Gobry, vous avez rencontré un apprenti tonnelier.
Jules, 20 ans, est apprenti Compagnon du Devoir depuis 4 ans. Il a fabriqué ses premiers tonneaux à Bordeaux, puis à Dijon. Il est passé aussi par l'étranger, c'est obligatoire depuis quelques années. Jules a choisi l'Écosse l'an dernier et la Suisse.
À l'époque, un charpentier, un couvreur qui travaillait à Paris par exemple et qui ensuite allait travailler à Marseille, voyait une énorme différence de culture, d'origine, c'était vraiment un vrai voyage. Aujourd'hui, on peut faire l'aller-retour en une journée en train. Il y a une sorte d'homogénéisation de la France. En partant à l'étranger, on redécouvre complètement autre chose.
C'était le cas en Écosse. Jules a travaillé chez des grands noms du whisky, où il a découvert des façons de faire insoupçonnées.
Les tonneaux à whisky, après avoir eu 2-3 utilisations, sont rebrûlés à l'intérieur, mais de manière très très intense. C'est carbonisé, c'est du charbon à l'intérieur. Ça, j'aurais jamais su que ce serait possible de faire ça avec un tonneau. En fait, de là, on découle plein de techniques qu'on n'aurait pas pu développer avant.
Être Compagnon du Devoir, c'est plus qu'un apprentissage professionnel. C'est un engagement pour son savoir-faire, un concept bien français.
L'engagement en anglais, ça correspond plus au mariage, donc du coup, il pensait vraiment que j'étais marié, donc c'est très compliqué à décrire, en fait, à l'étranger, le compagnonnage. C'est pas seulement une école.
Après l'Écosse, la Suisse, Jules espère aller dans des régions viticoles en Espagne et en Allemagne pour fabriquer des barriques à bière.
Les Compagnons du Devoir sont présents dans 66 pays sur tous les continents. 10 000 sont formés chaque année en France.
8h13, le charbon à la rescousse du nucléaire.
Le charbon a du bon, les grands froids arrivent, le mercure descend et vous avez besoin de plus chauffer. Résultat, une consommation d'électricité en hausse au point que les centrales nucléaires n'arrivent pas à fournir tout le pays et l'on craint des pénuries notamment en Bretagne. EDF a donc dû réquisitionner les ouvriers de la centrale à charbon de Cordemais en Loire-Atlantique. C'est tout le paradoxe car ils sont en grève depuis 15 jours. Leur centrale est jugée trop polluante, elle va bientôt fermer, mais on les rappelle, Adrien Toffolet.
Une réquisition pour pallier un éventuel manque, ce n'est pas la première fois que ça arrive en ce début d'année. Du 8 au 11 janvier dernier, les deux unités de production de Cordemais ont déjà été mises à contribution et rebelote hier et aujourd'hui. Pour RTE, il s'agit selon eux d'une situation inédite, exceptionnelle cet hiver en raison des opérations de maintenance et donc de l'arrêt plus long que prévu des réacteurs de la centrale de Flamanville. RTE qui a la mémoire courte pour Gwenaël Plagne, délégué syndical CGT de la centrale.
On le sait, étant à la centrale depuis quasiment une vingtaine d'années, tous les hivers, pendant un certain nombre d'heures et suivant la vague de froid qui arrive, corps de mai est ultra mobilisé et indispensable à tenir le réseau. C'était démontré techniquement. Et il est probable que la semaine prochaine, on soit encore réquisitionné, malgré le fait que Flamanville doit démarrer. Il y aura besoin des tranches de corps de mai pour pouvoir alimenter la Bretagne. Sinon, ça risque d'être extrêmement fragile et d'avoir une nouvelle fois, comme jeudi dernier, des baisses de tension et des risques importants de coupures.
Bref, un argument de plus dans les mains des salariés de la centrale en grève. Malgré la menace de fermeture du gouvernement, ils appellent à la reconversion énergétique des installations grâce à EcoCombust, un projet à l'étude pour produire de l'électricité à partir d'un combustible biomasse très peu polluant et qui donnerait un avenir aux 1200 emplois directs. Direct et indirect concerné.
La folie NBA en Europe. Des millions d'Européens suivent à distance le championnat nord-américain de basketball. Mais désormais, la NBA vient à eux. Hier, les Knicks de New York et les Wizards de Washington se sont rencontrés près de Londres. Ce n'est pas une très grande affiche et pourtant les 19 000 billets se sont vendus en une heure seulement. Spectateur privilégié parmi de nombreux Français, notre envoyé spécial Xavier Monferrand.
Dans les travées de l'O2 Arena, ça parle français dans tous les coins. Pas surprenant. Sachant que la France est le premier marché pour la NBA en Europe. Sébastien a fait le voyage en famille depuis Caen. 500 euros les billets pour lui et son fils tout de même, mais ça vaut le déplacement.
Ça fait rêver, c'est notre sphère, c'est un autre monde. Quand on va voir l'ASVEL ou tout ça, c'est pas que c'est pas des mauvais joueurs, mais il y a un cran de plus quoi.
C'est pareil que la France ?
Ça dunk plus.
Dunk, mascotte, animation, certains sont venus d'encore plus loin pour voir ça, de Mâcon pour Jonathan, et ils n'auraient pas fait un tel périple si ce n'était pas pour la NBA.
En France, pour du basket ? Non, c'est pas pareil. En France, les matchs peuvent finir à 60 à 50, la NBA, tout ce qui se passe autour, c'est un show américain.
Ironie de la situation, la France est la première légion étrangère de NBA, pas moins de 10 joueurs cette saison sur les parquets américains, dont Frank Ntilikina, le meneur de New York, formé à Strasbourg et qui espère très vite revoir la NBA à Paris.
Ah, je vais prier, ce serait une occasion énorme. Je suis déjà vraiment content d'avoir pu jouer ici en Europe, à Londres, mais aller à Paris, ce serait le rêve.
Et même si Noël est déjà passé, le vœu de Frank Ntilikina et des fans français devrait être exaucé, peut-être même dès l'an prochain. Londres, Xavier Monferrand, France Inter.
Et oui, puisqu'on attend la NBA l'année prochaine à Paris.